Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
Salut. As-tu déjà été formé aux gestes de premier secours?
Pas du tout.
L'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement. Bah, en fait, je l'ai passé dans le cadre du BAFA, c'était une des qualifications les plus soutenues par rapport aux autres. Et du coup, c'était plus intensif que les autres PS1 que j'ai pu passer.
Pas vraiment. Bah, le massage cardiaque, on l'a appris, j'ai dû apprendre ça au collège, quelque chose comme ça. Oui, il y avait un stage d'une semaine, je crois. Je sais plus trop, ça fait vraiment longtemps.
Oui, à la JAPD, quand j'avais 17 ans. Mais je me rappelle quand on met sur le côté, voilà.
Il y a, je sais pas, quelques années déjà, ça remonte. Je garde un bon souvenir. Après, c'est vrai que ça fait quelques années que je l'ai fait, donc maintenant, on oublie au fur et à mesure.
Si quelqu'un devait tomber en arrêt cardiaque, là, tu saurais quoi faire?
Je sais pas si je pourrais lui sauver la vie. Enfin, lui sauver la vie, c'est compliqué lors d'un arrêt cardiaque, mais du moins le maintenir au mieux possible jusqu'à ce que les secours arrivent, quoi. Le seul problème, c'est qu'on oublie, quoi. C'est ça le truc, je le dis, hein. Moi, je l'ai déjà passé 2 fois, dont une fois où c'était quelque chose de plus poussé. Si ça m'arrivait aujourd'hui, si quelqu'un là faisait un arrêt cardiaque, je suis pas sûre de pouvoir être vraiment opérationnelle à 100%, quoi. Le nombre de pulsations par minute, le truc comme ça, enfin, je me souviens plus exactement, donc pas évident, mais je pense que oui, c'est important de se sentir concerné par ça, en fait.
Faut savoir si elle est en arrêt cardiaque, prévient une autre personne de contacter les secours. Après, la personne qui gère la personne en arrêt cardiaque, alors c'est la grande question. Massage cardiaque, c'est avec les positions, les mains, les bras droits, voilà, presser la cage thoracique. Le nombre de répétitions, je sais plus exactement, peut-être 32, et 2 insufflations pour les poumons. Répéter jusqu'à l'arrivée des secours.
J'appelle les pompiers.
Quel numéro ?
18. Après, je sais pas quoi faire.
Non, parce que j'ai pas été formée au...
Le défibrillateur.
Voilà, j'ai pas été formée à ça par contre.
Le défibrillateur actuel, c'est assez simple. Il suffit de l'allumer, après tout est dessus. Il suffit de suivre ce qu'on nous dicte.
Est-ce que tu fais du sport ?
Oui, du hand.
Tu as déjà remarqué dans la salle de sport où tu pratiques le hand, un défibrillateur ?
Oui. Parfois plus ou moins cachés, mais ils sont toujours là.
Tu as déjà vu quelqu'un s'en servir ?
Non, personne n'en a eu besoin, heureusement.
Si on te proposait une formation pour pouvoir exercer les gestes de premier secours, est-ce que tu irais ?
Je sais pas, ça dépend de tout, enfin, ça dépend d'horaire, si c'est long ou pas, déjà si ça a un coût. Je suis pas sûr que je serais intéressé, parce que ça nous passe au-dessus de la tête comme beaucoup de choses.
Je pense pas, parce que j'ai pas trop le temps, donc ce serait plus une question de temps, mais sinon oui, pourquoi pas, ouais.
Si j'ai le temps, ouais. Toujours pratique, utile.
Si c'est proposé par exemple par la fac, pourquoi pas, ouais. Si j'ai rien de prévu et que j'ai pas cours, j'irai sûrement, oui, je pense.
Ça tombe bien, il y a une formation le 26 novembre au bâtiment et rêves.
D'accord, ok, peut-être que j'y serai.
Vous avez pu entendre de brefs témoignages d'étudiantes et d'étudiants réalisés sur le campus de Villejean, des témoignages ne souvent pas représentatifs du comportement de la population estudiantine face à des situations d'arrêt cardiaque, mais qui interpelle lorsque l'on sait qu'en France, la proportion de personnes ayant reçu les premiers gestes de secours par un tiers lors d'un arrêt cardio-respiratoire n'est que de 25%. Apprendre les gestes qui sauvent au cours de formation s'avérerait bénéfique sur l'avenir, un avenir porté par les étudiants auxquels croit le docteur Mohamed Saïdani, initiateur de la soirée de formation à la prise en charge de l'arrêt cardiaque du jeudi 26 novembre sur le campus de Villejean.
Établissement français du sang.
Je suis le docteur Saïdani, je suis urgentiste et je suis responsable du centre d'enseignement de soins d'urgence. On veut rattraper par cette population d'étudiants qui, pour nous, est importante parce que censée partir partout après, donc amener le bon message, donc un peu comme la rousse, essayer de diffuser le savoir un peu partout, voir le bouche à oreille, ce qu'il va donner pour les autres journées. Si les étudiants qui viennent deviennent formateurs, c'est la cerise sur le gâteau, ce serait notre bonus. Il faut savoir que par rapport aux pays nordiques, où eux, ils arrivent à sauver jusqu'à 40% des arrêts cardio, nous en France, on est à 3 à 5%. Pourquoi on est à 3 à 5% ? Parce que ces premières personnes qu'il faut qu'ils commencent rapidement le massage cardiaque, ben on ne les a pas. Sur l'agglomération rennaise, sur le secteur du SMUR de Rennes, on a 60 par mois d'arrêt cardio-respiratoire, en moyenne. Hein. Pas plus tard qu'hier, on a récupéré une jeune dame en arrêt cardio-respiratoire qui actuellement est en cardio, grâce au premier massage de la personne. Il faut savoir que l'équipe du SAMU, aussi bien entraînée avec tout le matériel du monde, si les premières personnes n'ont pas commencé à compression thoracique, elles vont pas être suffisamment efficaces pour sauver la personne. Le premier qui sauve la personne, c'est les premiers qui sont sur place et qui commencent à faire les compressions thoraciques.
En effet, le cœur, premier protagoniste de la mise en cause de l'arrêt cardiaque, est un muscle, une pompe servant à apporter de l'oxygène par le sang à son propre tissu musculaire, le myocarde. Celui-ci le redistribue ensuite au cerveau et aux poumons. Mais pour assurer cet afflux sanguin vers ses organes vitaux, le myocarde doit pouvoir compter sur la parfaite synchronisation de chacune des cellules qui le composent, des cellules devant à tout prix se contracter en une seule unité et non individuellement. Mohamed Saïdani.
Vous êtes dans un bateau, une galère, et tous les galériens, chacun rame à son compte. Il n'y a plus d'efficacité et le sang ne circule plus. D'où l'intérêt du défibrillateur. Le défibrillateur fait passer un courant qui remet toutes les fibres à zéro.
Que toutes les cellules se synchronisent.
Donc cette synchronisation permet au sang de recirculer. 5-6 minutes, on commence à avoir des lésions. À 9 minutes, on a des lésions au niveau du cerveau, parce qu'il n'est pas oxygéné si on masse pas. Et donc on va sauver une personne, mais elle va avoir des séquelles cérébrales derrière. Le cœur, lui, peut résister encore un peu plus longtemps, mais le mieux, c'est de commencer le plus précocement possible. On n'a pas d'endroit où l'arrêt se répète deux fois. Et à Rennes, aux dernières nouvelles, on ne déplore pas de vandalisme par rapport à ces défibrillateurs, hein, ce qui est une chose très importante, contrairement malheureusement à des salles de sport où parfois ils sont volés. Mais les gens sont conscients que cet appareil peut sauver une vie et qu'il est important. Il n'y a aucun risque à utiliser un défibrillateur, bien au contraire, vous ne pouvez que sauver une vie en l'utilisant.
Le défibrillateur automatique, mallette verte simple d'usage, posté dans et devant les infrastructures de la ville et dans nos rues, est une des préoccupations du délégué à la prévention et à la nutrition de la ville de Rennes, également présent lors de la soirée de formation.
Station République, accès Musée des Beaux-Arts, Parlement de Bretagne, place de la mairie, office du tourisme et des congrès.
Jean-François Bédard, je suis conseiller municipal à la ville de Rennes, délégué à la prévention et à la nutrition. Et je suis également médecin généraliste. J'ai été 20 ans médecin généraliste dans le quartier de Maurepas, médecine générale de cabinet. Et depuis maintenant un an, je travaille au centre hospitalier Guillaume Régnier, toujours comme médecin généraliste. En fait, les défibrillateurs, ce sont des appareils qui ne sont pas soumis à une déclaration obligatoire. Ce qui fait qu'on ne sait pas au total combien il y a de défibrillateurs sur la ville de Rennes. Par contre, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comptabilisé ceux que nous connaissons, ceux que des structures nous ont fait connaître. Et on a répertorié plus de 130 qui sont présents soit dans l'espace public, soit effectivement chez des clubs sportifs, à la gare, place de la mairie. Ils ne sont pas forcément toujours facilement répertoriés. C'est vrai que ça peut être intéressant, quand on arrive dans une ville, de regarder où se situe le défibrillateur le plus proche de chez soi. Et donc ça peut être utile de se dire, tiens, si quelqu'un autour de moi a un souci, je peux aller le chercher si besoin.
Sur les plans de la ville de Rennes, on a les logos des magasins, les logos de la poste. Pourquoi ne pas mettre ces petits logos verts qui représentent des défibrillateurs sur les plans ?
On a fait une carte qui effectivement représente ces logos-là. Vous imaginez bien que sur la même carte, s'il fallait représenter les défibrillateurs, plus les magasins, plus les piscines, plus les stades, plus... Enfin bon, on arriverait à une carte qui serait complètement illisible. On peut sortir une carte adaptée, on va dire, au défibrillateur, mais on ne peut pas mettre toutes les informations sur la même carte. Sinon, effectivement, elle ne serait plus utilisable par chacun d'entre nous.
Sur cette fameuse carte de Rennes, il y a des endroits comme le centre, où là, juste en bas d'où nous sommes à la mairie, il y a un défibrillateur de présence. C'est une zone où fluctuent beaucoup de personnes. Il y a en revanche des zones à Rennes qui sont, j'aurais tendance à dire, oubliées. Je pense au quartier de Maurepas ou du Blône. Comment on explique ça ?
Donc là, effectivement, il y a des quartiers qui vont peut-être avoir moins de défibrillateurs repérés, mais malgré tout, il y en a. Par exemple, sur la cartographie de la ville de Rennes, on ne voit pas un défibrillateur qui existe dans le cabinet médical là où j'étais installé en Vent, mais je sais qu'il y est. La ville n'a pas non plus mission à imposer à chacun de déclarer son défibrillateur. Donc c'est un petit peu du choix de chaque structure de se positionner. Ce sont aussi des matériels qui nécessitent une maintenance, une vigilance. Et donc automatiquement, la ville s'engage de manière massive sur cette action, mais elle ne peut pas non plus, elle toute seule, assurer la totalité de la couverture sur une ville. Ce serait même impossible.
Le défibrillateur semi-automatique analyse le signal électrique du cœur, calcule la quantité d'électricité à délivrer et guide l'utilisateur. Cependant, le manque de formation des usagers est criant au vu des résultats sur le terrain.
Au moins une fois par mois, il y a des formations réalisées par les partenaires associatifs dans tous les quartiers de Rennes, ou sur Maurepas et sur le Blône en particulier. Il y a des actions régulières par les associations d'urgence qui forment tout un chacun aux gestes de premier secours. Et nous sommes aussi en train de travailler à la mise en place de formations aux gestes de premier secours dans les écoles. C'est vraiment un projet qu'on souhaite mettre en œuvre. Il nous faut nous laisser un petit peu de temps pour travailler ce projet, mais c'est quelque chose qu'on souhaiterait vraiment mettre en œuvre de manière régulière, pérenne, au niveau des écoles de la ville de Rennes.
Faire un peu comme dans les pays scandinaves où là-bas, chaque écolier est formé tous les ans aux gestes de premier secours, peut-être.
Si effectivement Rennes est un petit peu en avance au niveau français, les pays nordiques sont un peu en avance sur nous encore, sur ces thématiques de gestes de premier secours, mais aussi plus largement d'activité physique, d'alimentation adaptée et de vigilance par rapport à autrui.
Chaillou, accès CHU, Centre Eugène Marquis, établissement français du sang.
Je suis le docteur François Paillard, cardiologue au CHU de Rennes et spécifiquement en charge du domaine de la prévention des maladies cardiovasculaires. Et donc dans le cadre de cette journée, j'interviendrai pour expliquer comment surviennent les maladies cardiovasculaires, quels sont les facteurs de prédisposition et surtout comment est-ce qu'on peut les prévenir. Les arrêts cardiaques peuvent survenir moins souvent à cause de maladies du muscle cardiaque lui-même, ça existe, mais ce ne sont pas les causes les plus fréquentes. Donc c'est par exemple un cœur trop épais, c'est souvent dû à ce qu'on appelle des cardiopathies hypertrophiques, qui sont des pathologies en bonne partie génétiques et qui prédisposent à des arrêts cardiaques, notamment lors d'activités sportives. Les plus fréquents des arrêts cardiaques, ce sont en fait des arrêts qui sont consécutifs à des obstructions des artères qui irriguent le cœur. Donc en fait, c'est une maladie des artères du cœur. Et donc ces artères peuvent être encrassées au cours de la vie. Cet encrassement peut mener à une occlusion complète de l'artère. Et quand il y a une occlusion complète de l'artère, il y a un infarctus, c'est-à-dire que la partie du muscle cardiaque qui dépend de cette artère qui s'est bouchée ne travaille plus. Et dans certains cas, cela peut se compliquer d'arrêt cardiaque.
Est-ce que la prise de certains médicaments peut favoriser un arrêt cardiaque ?
Certains médicaments, effectivement, peuvent prédisposer à cela, soit chez des patients qui ont certaines maladies génétiques du cœur. Certains médicaments peuvent être contre-indiqués, c'est des problèmes un peu compliqués, mais il peut y avoir ce problème. Et puis, par ailleurs, un certain nombre de médicaments qui sont à la limite parfois des drogues psychostimulantes, hein, c'est le cas de la cocaïne, de l'ecstasy, des amphétamines en général, qui sont des médicaments psychostimulants, très stimulants au niveau cardiaque, eh bien, l'usage de ces médicaments ou de ces drogues, ça dépend dans quelles circonstances on le prend, peut conduire à des arrêts cardiaques.
Les hommes sont plus enclins à des risques d'arrêt cardiaque que les femmes.
Il faut distinguer les premières causes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les causes du muscle cardiaque. Là, on peut dire très grossièrement que c'est autant d'hommes que de femmes. Et puis les maladies des artères du cœur. Donc l'encrassement des artères du cœur est finalement un caillot qui bouche l'artère. Globalement, ils sont plus fréquent chez les hommes. Grosso modo, avant l'âge de 60 ans, on estime que c'est 4 hommes touchés pour une seule femme. Après, chez les sujets plus âgés, ça devient à peu près égalité entre les hommes et les femmes.
C'est une valeur intrinsèque, ça. Nous sommes plus disposés naturellement au risque d'arrêt cardiaque.
C'est encore un problème qui n'est pas très bien cerné. Ça tient à plusieurs phénomènes. D'une part, la prévalence des facteurs de risque classiques était plus importante chez les hommes. Prenez par exemple l'exemple du tabac. Le tabac était plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Ça commence à s'inverser, ce qui n'est pas forcément en faveur des femmes. Et dans les 10 dernières années, alors que le risque d'infarctus a diminué chez les hommes, il est resté stable chez les femmes jeunes. Et on pense que c'est en grande partie dû à l'augmentation du tabagisme chez les femmes jeunes. Donc il y a ces problèmes qui sont liés aux facteurs de risque un peu traditionnels. Et puis, il y a d'autres éléments qui sont sans doute de nature hormonale, qui font que les hormones féminines ont sans doute un effet bénéfique sur le système artériel et que jusqu'à la ménopause, dans une certaine mesure, les femmes sont un peu protégées. Ce n'est pas une protection totale. Il y a quand même des femmes qui développent des infarctus avant la ménopause. Néanmoins, elles sont relativement protégées et ceci perdure un petit peu quelques années après la ménopause. Donc, d'une part, la prévalence plus importante des facteurs de risque chez les hommes. D'autre part, une certaine protection chez les femmes, pas parfaitement connue, mais qui explique qu'il y ait cette différence chez les gens qui ne sont pas âgés.
La pilule, paraît-il, favorise les risques d'arrêt cardiaque.
La pilule classique, la pilule estroprogestative, peut comporter une petite augmentation du risque très limitée, à vrai dire, qui est due au fait que la composante estrogénique de la pilule estroprogestative favorise un peu les caillots sanguins. Donc, chez les femmes vraiment très prédisposées, il peut y avoir une facilitation des caillots sanguins sur des artères déjà abîmées. Ça reste quand même un élément très marginal, surtout pour les femmes jeunes. En dessous de 30 ans, par exemple, ce risque est quasiment nul. Donc, on en tient très peu compte, sauf quand il y a beaucoup d'autres facteurs de risque associés, comme le tabac, par exemple. Mais ce risque augmente un petit peu plus chez les femmes qui utilisent la pilule à un âge un peu plus avancé, c'est-à-dire vers la quarantaine, par exemple, où là, souvent, il est conseillé de changer de moyen de contraception parce que, évidemment, ces risques de problèmes artériels augmentent avec l'âge et sont plus fréquents à 40 ans qu'à 20 ans. À 20 ans, il est très exceptionnel que les artères soient malades. La pilule ne pose dans ce cas-là aucun problème.
Le cholestérol, le tabac, ça encrasse les circuits. Comment on fait justement pour désencrasser tout ça? Est-ce qu'il y a un risque de rechute ou alors il y a moyen d'éradiquer complètement les risques?
Alors il y a déjà surtout moyen de les prévenir. Pour les maladies des artères coronaires, on estime que 80 à 90% pourraient être évitées si on avait un mode de vie idéal. C'est très difficile d'obtenir un mode de vie idéal. Mais ce qu'on appelle par mode de vie idéal pour le risque artériel, c'est pas pour autre chose, c'est le fait de ne pas être fumeur, d'avoir une activité physique très régulière, alors que le mode de vie au XXIe siècle prête plutôt à être sédentaire. La majorité des personnes ont un travail de bureau, etc. Donc ça, c'est pas très favorable sur le plan cardiaque. Et avoir une alimentation saine et équilibrée. Et d'autre part, à ne pas avoir de surcharge pondérale. Donc quand on a tous ces éléments au vert, on a 80 à 90% de chances en moins de faire un problème artériel. Acquérir ces bonnes habitudes à un âge relativement jeune, c'est prévenir des problèmes cardiaques qui vont éventuellement survenir aux âges moyens de la vie. Donc ça, c'est tout à fait possible et totalement démontré dans tous les pays du monde. Quand les artères sont malades, il y a toujours possibilité d'agir. Si les dépôts sont relativement jeunes, on peut dans une certaine mesure faire régresser une partie de ces dépôts. C'est quand même un phénomène relativement rare. L'enjeu le plus important, c'est surtout que ces dépôts deviennent cicatriciels. Au lieu d'avoir une sorte de volcan en éruption potentielle, on va avoir un volcan éteint. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une petite surélévation dans l'artère, mais ça va rester là comme une cicatrice du passé et finalement, ça n'a pas grande importance. Alors ça, c'est possible grâce au changement du mode de vie et grâce au traitement médicamenteux pour les patients qui sont atteints de maladies des artères. La plupart des experts scientifiques et des recommandations de société sont tout à fait unanimes. Les modèles les plus protecteurs, c'est des modèles d'alimentation inspirés de l'alimentation de type méditerranéen ou les modèles d'alimentation type japonaise. C'est une alimentation qui va être riche en fruits et légumes parce que ça apporte des éléments protecteurs. Ça, c'est un élément qui est constant. Pauvre en ce qu'on appelle des graisses saturées. Les graisses saturées, c'est celles qu'on trouve dans les viandes grasses, surtout dans le gras associé à la viande, dans la charcuterie, et puis dans les produits laitiers les plus gras, c'est-à-dire la crème, le beurre. C'est pas un interdit sur le beurre, mais il faut le limiter. La cuisine au beurre, par exemple, n'est pas conseillée, sauf pour des cas un peu exceptionnels, parce que ça apporte un certain nombre de matières grasses saturées qui augmentent le cholestérol, qui augmentent le risque de thrombose. Il ne s'agit pas de manger pas gras, il faut avoir un apport en matières grasses normal. Par contre, il faut bien choisir ses matières grasses. Dans les modèles, par exemple, méditerranéens, la matière grasse qui domine, c'est l'huile d'olive ou bien l'huile de colza. Ce sont des huiles qui, pour différentes raisons, apportent des éléments qui sont protecteurs. Alors qu'au contraire, les graisses saturées, quand elles sont consommées en excès, peuvent augmenter le cholestérol. Ça, ce sont les éléments qui font l'unanimité. C'est basé sur des études très solides. Il y a eu une étude chez des gens très à risque faite en Espagne il y a 2 ans, qui a montré que l'adoption d'un régime de type méditerranéen, avec une consommation assez importante d'huile d'olive, avec des consommations de noix, permettait de réduire le risque de maladie cardiovasculaire de 30%. Donc c'est un acquis considérable d'une méthode strictement naturelle. Toutes les activités physiques sont bonnes, des activités vraiment de la vie de tous les jours sont protectrices et ceci est démontré. Faire une activité sportive est aussi encore plus bénéfique. Et ce qui est important, c'est que l'activité sportive soit régulière et, si possible, répétée dans la semaine. C'est encore plus important d'avoir une activité fréquente, même si elle n'est pas très longue, que d'avoir une seule activité hebdomadaire plus longue. Parce que la répétition est au contraire très bénéfique au niveau des artères, ce qui paraît un petit peu logique, mais l'idéal, c'est cela.
retour en studio après les interventions de chacun des protagonistes de la soirée de formation à la prise en charge de l'arrêt cardiaque du 26 novembre au bâtiment RM. Alors bonjour Valérie Cazin, vous êtes médecin directeur du service de santé des étudiants que l'on connaît plus sous le nom de SIMS.
C'est un service interuniversitaire Rennes 1, Rennes 2, avec un site basé sur Beaulieu et un site qui est basé sur Villejean. Et le site de Villejean se trouve au deuxième étage du bâtiment EREV.
D'accord.
Bah alors... Face à Radio Campus, on est voisins.
Oui, en effet. Alors parlez-nous de cette soirée de formation que vous organisez.
Alors, elle vient d'une rencontre avec le docteur Mohamed Saïdani lors d'une formation dans le service et nous a proposé de faire une soirée formation à l'attention des étudiants de Rennes 2, nous proposant de former 50 ou 100 étudiants. Nous avons pris contact avec monsieur Joachim Gardin du service sécurité du site de Rennes 2 de manière à organiser cet événement.
D'accord. Alors pourquoi 50 et pas plus? Ça serait bien quand même d'en avoir plus.
J'étais partante pour 100 étudiants, mais il y a un principe de réalité, c'est que pour réunir 100 étudiants, il nous fallait déjà prévoir un espace suffisamment important. Et puis, il faut recruter les 100 étudiants. Donc on s'est dit, pour une première fois, on commence par recruter 50 étudiants parce qu'il faut un engagement ferme et définitif. Alors définitif, le mot est un peu lourd, mais bien sûr, on fait déplacer le SAMU, les sapeurs-pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, ce sont des bénévoles. Il faut vraiment que les personnes s'engagent et soient présentes pour la formation. Si cette soirée fonctionne, l'idée, c'est d'organiser ces soirées de formation de manière pérenne. Donc plusieurs rendez-vous au cours de l'année, plusieurs formations.
Bien. Donc vous allez vers les étudiants, mais est-ce que les étudiants vont vers vous? Est-ce qu'ils sont curieux de connaître les gestes de premier secours?
Effectivement, quand on en échange avec eux, ils sont tout à fait intéressés. Ce qu'ils nous renvoient souvent, c'est qu'il y a eu une initiation lors de la JAPD, et puis au collège. La formation aux gestes de premier secours fait partie des programmes de l'éducation nationale. Je dois dire qu'ils sont intéressés quand on leur en parle. Après, de là à sauter le pas et de se dire « bon bah, je veux venir à la formation, effectivement c'est important », on a un petit peu plus de mal à les convaincre. Sur une université qui compte 23 000 étudiants, ce serait quand même dommage de ne pas toucher nos 50 étudiants.
Et en ce jour où nous enregistrons, hein, nous sommes à 26 étudiants et étudiantes inscrits.
Donc là, on ciblera plus spécifiquement l'arrêt cardiaque et l'utilisation du défibrillateur semi-automatique. Il est important de savoir comment ça fonctionne, de savoir comment alerter, puisque de l'avoir répété avant que ça se produise, ça rassure, ça aide, ça conforte. On peut se dire, je suis capable, effectivement. Et c'est un geste que tout le monde peut réaliser, mais il faut juste l'avoir vu une fois et ça permet de dédramatiser et puis de sauver une vie grâce à ces gestes de base.
Une formation sur une soirée, c'est bien, mais ne serait-il pas mieux d'organiser la formation sur 2 ou 3 jours? On a tous ce souvenir de cette journée au collège, au lycée ou encore à la JAPD où l'on a appris à la hâte des gestes de premier secours dont on ne se souvient plus. Donc le faire sur 2 ou 3 jours n'aurait-il pas été plus bénéfique?
Certainement, mais commençons petit pour pouvoir susciter de l'envie et puis on a envie que ce soit un moment convivial. Donc on accueillera les étudiants avec un pot d'accueil de manière à connaître les intervenants, à faire connaître notre service et que ce soit une rencontre. Après on se mettra à travailler sur les gestes de manière très conviviale et tout de même efficace.
Votre service propose-t-il des formations tout au long de l'année ?
Nous proposons une formation à ce qu'on appelle le PSC1, c'est le premier niveau de secourisme. Et donc c'est sous forme de 2 jours. Donc dans un second temps, les étudiants pourront s'inscrire à cette formation qui est gratuite, à l'issue de laquelle on délivre un certificat, une attestation...
Au premier secours.
Au premier secours. Je cherche mes mots. Alors, on s'interroge sur la façon d'attirer ou de sensibiliser nos étudiants à ces journées de formation. Là, nous avons communiqué autour de cet événement. Certainement qu'on doit s'améliorer sur la façon dont on communique pour sensibiliser et faire venir les étudiants. Mais déjà, réunir 50 étudiants, c'est un peu compliqué. On aimerait bien que tout le monde soit présent le 26 novembre. en sachant que ce sont 50 étudiants, mais que cette soirée, nous souhaitons la reproduire et avoir une liste d'attente, il n'y a aucun problème.
Je vous comprends bien. Eh bien, cette émission touche à sa fin. Le temps de rappeler que la formation de gestes de premier secours en cas d'arrêt cardiaque sera proposée au premier étage du bâtiment RF. Ce sera le jeudi 26 novembre de 17h30 à 20h30.
Et on reçoit les étudiants à partir de 17h30 autour d'un pot d'accueil.
Je vous remercie beaucoup, Valérie Cazin, médecin directeur du service de santé des étudiants, le fameux SIMPS, qui, je le rappelle, se trouve au deuxième étage du bâtiment RF, juste en face de nos locaux à Radio Campus Rennes. Donc merci d'avoir fait la route jusqu'ici pour évoquer avec nous la mise en place de cette journée de formation au premier secours du jeudi 26 novembre.
Voilà, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
À bientôt.
Au revoir.
Ce deuxième numéro d'Enjeux de santé s'achève, une émission où il était question du risque d'arrêt cardiaque ainsi que de sa prise en charge. Je tiens à remercier les différents intervenants à la journée de formation de nous avoir accordé un entretien ainsi que pour leur disponibilité et leur gentillesse. Sachez que Enjeux de santé est disponible en différé sur le site radiocampusrennes.fr. À bientôt et prenez soin de vous.